Radio Barque pour ce 34e et qui va d'ailleurs clore notre saison. Didier Mouly, maire de Narbonne et président du Grand Narbonne. J'aimerais qu'on évoque le cas du RCN, alias le Racing, comme disent à peu près tous les Narbonnais depuis fort longtemps. Alors bien sûr, le maire n'est pas le président du club, mais on interpelle souvent le maire, à tort ou à raison. On vous a interpellé encore au dernier conseil municipal. Donc, en vous reprochant un certain nombre de choses, d'ailleurs. Donc j'aimerais que vous, Didier Mouly, vous nous fassiez un bilan de ce qui est possible et de ce qui est en votre savoir à ce jour.
En tant que maire de la ville de Narbonne, j'en suis à ma 4e direction du Racing. D'abord, il y a eu M. Elson, au travers d'une SEA sportive. Ensuite, il y a eu M. Archila, à travers cette SEA sportive. Puis, il y a eu M. Cosinus. Et enfin, il y a eu le quintet plus le sixième à la personne de messieurs Belzon, Delpoux, Campos, Marco, Ormière et bien sûr monsieur Bascou. Donc, ces quatre groupes de personnes à la tête du Racing ont présenté des projets totalement différents. Mais ils sont restés avec une idée de garder le Racing dans le haut niveau pour permettre d'abord au rugby au sein de la ville de Narbonne, mais également à la ville de Narbonne, d'avoir une certaine renommée, attractivité et, conforme au passé historique du Racing, vivre à un niveau qui permette d'avoir un sport avec du jeu, avec de beaux athlètes, avec des résultats. Simplement, la passion pour un club ne suffit pas en soi. Il faut être derrière un véritable chef d'entreprise et diriger le club en véritable chef d'entreprise. D'abord, parce qu'il y a un budget. Ensuite, parce qu'il y a une masse salariale assez importante entre les joueurs et l'administration. Et enfin, parce qu'il y a un projet sportif. Et que ce projet sportif, il faut le mener avec une certaine rigueur et un certain sérieux. Or, je constate que M. Campos est devenu le président d'une société anonyme et qu'il n'avait peut-être pas la carrure pour diriger une telle entreprise, celle du Racing. D'abord pour réaliser le budget qu'il avait envisagé, ensuite pour travailler avec la partie sportive, le staff, pour avoir des résultats à la hauteur des ambitions que l'ensemble des habitants de la Narbonnaise souhaitaient. Et en troisième point, pour avoir un partenariat avec le monde économique de la Narbonnaise suffisamment fort pour pérenniser l'action que l'on mettait en place. Monsieur Campos, d'une manière accusatrice, a reproché à la ville de Narbonne d'être à l'origine de la descente sportive. Alors il ne l'a pas dit nettement, mais il l'a tellement laissé sous-entendre qu'il en devient négatif pour la ville, pour le club de Racing, et qu'il ne peut pas apporter une valeur supérieure permettant à quelqu'un de vouloir lui succéder. Partons du principe que le conseil d'administration du Racing a pris acte du retrait de M. Campos et est en train de travailler sur une possibilité de reprise du club par quelqu'un qui en est amoureux, qui en est passionné et qui est un véritable chef d'entreprise à la personne de M. Xavier Marco. Dis Zaza pour les intimes. La force de M. Xavier Marco, c'est qu'il est aujourd'hui dans une phase de prise de connaissance des véritables tenants et aboutissants de ce club pour en tirer une conséquence en tant que chef d'entreprise. Il faut un président et il faut à côté un directeur général. Non pas un ancien élu qui a cherché à se recaser au milieu du Racing pour y vivre des matchs agréables, mais il faut un véritable directeur général qui sache ce que c'est que les ressources humaines, qui sache ce que c'est que des finances et qui sache ce que c'est que l'administration. Et ce directeur général, qui est un professionnel, doit, lui, organiser la structure club en laissant la partie sportive à des sportifs. Et en l'espèce, si la partie sportive est satisfaite de M. Seron, ben, qu'on continue avec son entraîneur et son staff, mais qu'on lui laisse la possibilité de diriger une équipe, pas comme ça se passait jusqu'à aujourd'hui, mais comme lui le conçoit, avec des prises de décision et des choix qui vont permettre à ce club de réussir, certainement dans certains moments clés du championnat qu'ils vont pratiquer. Mais si on ne scinde pas cette partie passion pour un maillot et réalisme d'une entreprise, on n'arrivera pas à sortir le Racing de l'ornière. J'espère que M. Marco pourra construire ce Racing de demain en chef d'entreprise et également avec une partie sportive qui va avoir un certain budget et une certaine possibilité. Il ne faut pas oublier que derrière, on a un club formateur exceptionnel. Les Crabos sont là pour en justifier, et les juniors également, puisque nous avons un champion de France chez les Crabos et un champion d'Occitanie chez les juniors, et ainsi de suite, quelle que soit la discipline, même chez les féminines. Donc, tirer sur l'ambulance comme les 5 plus le 6e ont fait depuis ces derniers mois, c'est inadmissible parce que derrière, nous avons une véritable valeur ajoutée sur ce club. Derrière, nous avons un club qui va de l'avant et un club qui a envie de réussir. Je fais confiance à M. Balbastre et Sandra sur la partie association. Ils m'ont présenté un projet qui tient la route, qui n'est pas peut-être au-delà de ce que l'on peut réaliser sur notre territoire, qui colle à la réalité, à l'histoire et au jeu du rugby.
L'association est plutôt dans la continuité.
Dans la continuité, en améliorant la formation encore plus. Et j'espère que la société anonyme, dirigée par M. Marco ou par quelqu'un d'autre, aura ce lien avec l'association, non pas uniquement administrativement vis-à-vis de la Fédération française de rugby ou de la Ligue de rugby, mais également dans la partie formation. Il faut que l'entraîneur de l'équipe Fagnon du Racing s'appuie sur la formation qui est derrière dans les différentes équipes qui composent cette association. Parce que c'est là notre poumon, notre vivier du Racing. Le vivier de demain, c'est celui-là. C'est pas en faisant venir uniquement des joueurs de l'extérieur qu'on arrivera à construire un Racing positif et porteur. Il faut travailler avec ce qui est construit à l'intérieur de l'association par le biais de cette formation.
Alors, parmi les reproches, je dirais presque sempiternels qu'on entendait récemment, à la ville, les reproches faits à la ville, c'était on perd parce qu'on n'a pas les loges qu'il faut pour recevoir les VIP. Enfin, ce genre de sous-entendu, la ville de Narbonne ne nous aide pas suffisamment. C'était un petit peu en filigrane ce qui était, je crois, prétendu.
C'est ça. C'est inadmissible. En début de championnat, il a été dit qu'il allait être fait par le Racing un budget de tant de millions. Il n'a rien été demandé à la ville de particulier. La ville a respecté ses engagements, une prime exceptionnelle parce qu'on montait en Pro D2, une subvention qui est la plus forte des subventions de toutes les communes qui ont un club en Pro D2, en rugby à 15, des prestations de services exceptionnelles. Et c'est en fin de saison, pour cacher la réalité de l'incompétence des dirigeants et du directeur général, M. Bascou, qu'on vient de dire à la ville de Narbonne, vous avez manqué de nous donner des buvettes à disposition, vous nous avez manqué de nous mettre des loges, etc., etc. Mais c'est inadmissible. C'est pas en fin de saison. En début de saison, il n'y a eu aucun reproche. Et ce que M. Bascou va reprocher à la ville de Narbonne, il ne l'a pas fait pendant les 12 ans où il a été président de l'Aglo et les 6 ans où il a été maire de Narbonne. Et aujourd'hui, nous travaillons dans le développement du parc des sports et de l'amitié, en gardant l'idée d'un parc urbain avec une partie sportive de haut niveau. La ville de Narbonne a décidé d'investir 5 millions d'euros TTC sur un réceptif dans la tribune d'honneur, dite tribune Pêche-la-Close. C'est une réalité. Mais cet investissement, il faut le préparer par une étude, par un choix d'un groupement, en espèce des architectes, par les marchés qui vont être lancés, et enfin par la réalisation. Tout va se faire, mais il faut laisser le temps au bâti de se réaliser et d'être mis en place. Il y aura un très beau réceptif qui ne sera pas exclusivement réservé au Racing, qui sera ouvert à tout utilisateur du stade.
Alors, justement, à propos de ce... Alors, vous disiez, j'y reviens quand même, pour les Narbonnais, dont certains sembleraient se désespérer un petit peu, pour vous, étant donné les écoles de formation, il y a un vivier véritable et un avenir pour ce club.
Alors, d'une part, il y a une personne qui s'intéresse de manière particulière au Racing, c'est Xavier Marco, et qui envisage d'en assurer la direction. Et d'autre part, il y a une équipe première qui peut compter à la fois sur les joueurs actuellement restants de ceux qui étaient en Pro D2 et éventuellement sur le vivier de l'association qui peut accompagner l'équipe première par des joueurs de talent.
Alors, restons au stade et partons-en en même temps, je m'explique. Sur l'emprise du stade a été inauguré récemment un poste de refoulement des eaux, de grands travaux qui étaient nécessaires finalement pour assainir l'ensemble du quartier du stade jusqu'à la station d'épuration. Ça a été, c'est sous terre, ça se voit pas.
Ah, vous avez un fil conducteur dans cette deuxième partie, Jean-Claude.
Voilà. Ça, oui, ça ne se voit pas, mais c'est important.
Non, effectivement, les deux postes de relevage qui se trouvaient sur le parcours des eaux usées, que ça soit au carrefour des plages sur le parking d'Intermarché ou devant l'entrée du Narbovia, ne pouvaient pas perdurer puisqu'ils étaient anciens et vraiment très obsolètes compte tenu des odeurs qui étaient dégagées. L'agglomération du Grand Narbonne a décidé de réaliser une nouvelle station de relevage des eaux usées. La ville de Narbonne a mis à disposition une partie du parking du Parc des Sports et de l'Amitié. Des travaux lourds ont été réalisés à la fois par ce poste de relevage, mais également par la canalisation, puisque la profondeur de celle-ci et les découvertes archéologiques qui ont été faites vont encore plus enrichir le Narbovia. Cela a pour conséquence, d'une part, d'avoir permis de refaire correctement le parking du Parc des Sports, ensuite de refaire un déplacement doux et végétalisé l'avenue Jean Antagnac, mais également de permettre à l'entrée de Narbovia d'avoir une entrée digne de ce nom sans un poste de relevage devant sa porte. Il va y avoir une passerelle qui va être créée entre le Narbovia et les berges de la Roubine, entre le chemin de halage de la Roubine, et il va y avoir un déplacement doux qui va continuer à partir de Narbovia et qui va remonter jusqu'au parking du théâtre. Ces travaux sont en cours de finalisation d'études et de marchés. Ils vont être réalisés incessamment sous peu. L'entrée est de la ville aura un véritable cachet, une véritable attractivité, et l'on verra ainsi que l'on peut se déplacer d'est en ouest dans la ville de Narbonne uniquement par des déplacements doux.
Par des déplacements doux, c'est-à-dire à pied, en vélo, grosso modo, pour schématiser. Alors finalement, on va conclure là-dessus pour cette deuxième partie, ces travaux permettent au musée Narbovia d'acquérir sa configuration définitive.
Sa configuration définitive, il n'y a pas de parking dédié pour le Narbovia, c'est une mutualisation de l'ensemble des parkings, et ces cheminements doux permettent justement aux visiteurs, que ce soit au Parc des Sports, à l'Arena, au Parc des Expos, au Théâtre ou au Narbovia, de pouvoir se déplacer d'un parking à l'autre sans aucune difficulté.
Voilà, il y a une sorte de mutualisation des parkings.
Exactement.
On marque une deuxième pause, Didier Moulin.